Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'hésitez pas à nous soutenir, vous le savez, la radio ne peut vivre que grâce au soutien de ses auditeurs et de ses mécènes. Pour ce faire, n'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique « Soutenez Storia Voce » à partir de notre page d'accueil, donc de storiavoce.com, notre site internet. Nous sommes en 1482 dans cette France médiévale, prête à entrer dans la Renaissance. Alors que le roi Louis XI est à l'agonie, le roi né, Pierre Choinet, médecin et astrologien du roi, écrit le livre des Trois Âges. Il s'agit d'un texte magnifique, une sorte de bilan du règne de Louis XI, visant à lui redonner la santé et la fierté d'une vie écoulée. Or, dans ce texte, une des enluminures présente un berger en train de tondre un mouton. À ses côtés, un panier rempli de la laine, ainsi qu'un chien hiératique portant un collier de fer. Le berger est évidemment le roi et l'enseignement est intemporel. Le roi doit imposer ses sujets, mais avec modération. À sa façon, Pierre Choinet réinterprète le fameux « trop d'impôts tue l'impôt ». Bien sûr, le panier symbolise le trésor royal, tandis que le chien représente, lui, l'armée, parce que le premier devoir d'un roi est de défendre ses sujets. Cependant, régulièrement dans notre histoire, l'imposition a suscité des colères, des indignations et parfois même des révoltes. Storia Voce vous propose aujourd'hui de faire une petite histoire de ces révoltes à travers les âges, des maillotins aux bonnets rouges qui étaient aussi des bonnets bleus, de la fronde jusqu'aux gilets jaunes, quelles que soient leurs expressions, ces révoltes révèlent ce que l'on appellera une permanence de l'histoire. Jean-Baptiste Noé, bonjour.
Bonjour Christophe Dickès.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en histoire économique et chercheur associé à Paris-Sorbonne Université. Vous avez notamment écrit un petit livre intitulé « La parenthèse libérale, 18 années qui ont changé la France » chez Kalman Levy en 2018. Et vous venez d'éditer chez le même éditeur, donc Kalman Levy, « La révolte fiscale, l'impôt ». Histoire, théorie et avatar. C'est un livre que vous avez coédité avec Victor Fouquet, qui est doctorant en droit fiscal à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et chargé de mission au Sénat. Alors ce livre n'est pas un livre comme les autres, on va le dire à nos auditeurs, puisqu'il s'agit d'un recueil de chroniques.
Exactement, ce sont des chroniques parues à l'été 2018 dans le journal L'Opinion, donc qui se voulait une série d'été sur la révolte fiscale. Et puis, après l'été, Kalman Levy, chez qui j'avais déjà publié un livre, nous a demandé de publier ces chroniques en faisant une version revue et augmentée. Donc on a rajouté une introduction, une conclusion, et puis certaines chroniques qu'on a revues, qu'on a retissées. Et donc tout ça s'est préparé entre septembre et octobre 2018. Et puis est arrivée une forme de révolte fiscale que sont les gilets jaunes, que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc le livre tombe bien, comme quoi l'histoire est toujours liée à l'actualité.
Alors vous commencez votre ouvrage par une longue introduction et plus précisément cette introduction commence par une longue citation, je vais me permettre de la lire dans son intégralité tant elle me semble extrêmement importante. Depuis des siècles, la France gémissait sous le joug des rois et des seigneurs. Ils étaient les maîtres et le peuple n'avait aucun droit. Ils travaillaient pour eux, ils payaient toutes leurs dépenses, ils étaient foulés aux pieds et souvent ils mouraient de faim. On disait de lui qu'il était taillable et corvéable à merci, c'est-à-dire que ses maîtres pouvaient lui imposer à leur volonté toutes les corvées et toutes les contributions imaginables qu'on appelait la taille, le sens, la gabelle, la dîme, etc. Quand il ne voulait pas travailler pour les seigneurs, on le battait, on le jetait en prison. Quand il ne pouvait plus payer les lourds impôts qui l'écrasaient, on vendait la maison, les outils, et on jetait les pauvres gens dehors, dans les bois, où il se nourrissait d'herbe. C'est un texte, Jean-Baptiste Noé, qui date un peu, mais qui, étonnamment, est resté dans les mémoires et même a, au fond, dominé toute l'historiographie trop longtemps.
Oui, alors c'est un texte d'un manuel scolaire, donc le livre de morale du petit citoyen qui est paru en 1896 et qui est un manuel scolaire qui a été écrit par Jules Stig, qui est un des grands turiféraires de la Troisième République, ami de Jules Ferry. Et donc ça fait partie de ces manuels qu'ont utilisé des enfants à l'âge de 8-10 ans et qui voulaient, à travers ça, présenter une image politique. Il y avait un avant et un après Révolution française. Avant la Révolution, les paysans croulaient sous les impôts et puis étaient jetés dehors et se nourrissaient d'herbes. Et puis après la Révolution, on suppose que les paysans croulaient moins sous les impôts et pouvaient manger à leur faim. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'impôt ici sert d'argument politique et qu'il est présenté aux enfants, puisque c'est un manuel scolaire pour la jeunesse, il est présenté comme un élément de l'émancipation. Enfin, la réduction de l'impôt est vu comme un élément d'émancipation et est vu comme un argument politique en faveur d'un régime par rapport à un autre. Et c'est resté, vous l'avez dit, c'est l'image que l'on a d'un ancien régime où les gens sont perclus d'impôts et d'un nouveau régime où il y a moins d'impôts. Bon, les historiens d'économie ont fait litière de cela. En réalité, on a constaté qu'il y avait beaucoup moins d'impôts qu'on le pensait à l'époque. Alors, c'est toujours difficile de faire des comparaisons précises, mais ça serait l'équivalent d'à peu près 18 à 20 jours d'imposition.
Par an ?
Par an. Au moment où paraît le texte, la France, l'imposition d'un Français, c'est à peu près 10% des revenus. Aujourd'hui, donc un siècle plus tard, on est à peu près à 50%. Donc ça, c'est intéressant de voir que dans l'histoire de l'impôt en France, il y a eu un accroissement de la fiscalité au cours du XXe siècle, mais qui va aussi de pair avec un changement de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, le paysan français est beaucoup moins imposé sous l'ancien régime qu'il ne l'est aujourd'hui, à la différence qu'on est dans une société de subsistance et de pénurie. Donc, même si on prenait moins, le peu qu'on prend fragilise beaucoup plus la personne. Aujourd'hui, si on prend 50% des revenus, les gens arrivent quand même à vivre, ce qui n'est pas le cas au XIIIe ou XIVe siècle. Malgré tout, on voit que l'impôt est toujours un sujet politique, et on en reparlera, mais l'impôt est aussi le fruit d'une vision de l'homme et de la société. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans l'ouvrage, c'est que l'impôt n'est pas qu'une question économique et financière. L'impôt dépend d'une anthropologie et de la vision que l'on se fait de l'homme. Alors c'est vrai que parler de l'impôt, c'est pas très glamour, c'est pas très attirant.
Mais vous le faites de façon très attirante.
C'est plus agréable de parler des batailles, de la diplomatie, de la cour de Versailles et autres. Malgré tout, l'impôt accompagne toute l'histoire de France et d'Europe depuis l'origine. Et on a une chronique qui traite de l'Antiquité et des Grecs. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est que la question fiscale dépend en fait de la vision qu'on se fait de la personne et des rapports entre la personne et la société. Tout va dépendre ensuite de ce que l'on va taxer. Par exemple, le fait qu'on taxe les revenus, le fait qu'on taxe le sel, le fait qu'on taxe les portes et fenêtres. Ça a été une des très anciennes cotisations, ce qu'on appelait les quatre vieilles. Le fait qu'on ait un impôt par capitation, donc par tête. Louis XIV a créé un impôt par capitation. Le fait que l'on ait un impôt progressif ou un impôt proportionnel. Tout cela n'est pas qu'une question financière de remplir les caisses de l'État, mais dépend de la vision qu'on se fait de la personne et également des produits que l'on veut taxer. On a aussi un changement de la nature de l'impôt. Ça, c'est manifeste. On est passé d'un impôt qui servait à financer ce qu'on appelle les domaines régaliens, donc l'armée, la diplomatie, à un impôt aujourd'hui qui est davantage un impôt comportemental. Par exemple, le bonus-malus pour les voitures, le fait de la taxe soda. On veut taxer certains produits qu'on estime dangereux pour la santé, donc on veut éviter que les gens en consomment. Donc on a un impôt comportemental qui cherche à modifier le comportement ou à orienter les comportements, les habitudes alimentaires.
Ce qui est nouveau. Est-ce que vous citez Colbert, l'art de l'imposition consiste à plumer loi pour obtenir le plus possible de plumes, tout en obtenant le moins possible de cris. Est-ce qu'il existe, Jean-Baptiste Noé, un impôt juste? Qu'est-ce que serait un impôt juste dans l'histoire telle que vous l'avez abordée? Votre livre commence à la Grèce antique et se termine au 21e siècle.
Alors c'est très compliqué parce que ça dépend de ce qu'on entend par justice. Par exemple, à l'époque des Grecs, l'impôt juste, donc tel que les Athéniens le conçoivent dans la Ligue de Délos, l'impôt juste, c'est donc la contribution des cités à la Ligue de Délos qui vise à créer une armée pour se protéger des Perses. Donc la justice fiscale pour les Athéniens et pour les membres de la Ligue de Délos, c'est cela, c'est avoir de l'argent pour bâtir une armée pour se protéger. Si l'on est dans la logique défendue, par exemple, au XXe siècle par Jean Jaurès ou par le mouvement socialiste, l'impôt juste, c'est l'impôt qui permet la redistribution, donc qui va taxer les hauts revenus pour assurer une redistribution vers les bas revenus. Un impôt juste, ça peut être aussi perçu comme un impôt qui favorise le développement des entreprises ou qui ne les pénalise pas trop. Donc c'est très difficile de définir la justice ou la justesse d'un impôt parce que ça va dépendre, encore une fois, de la vision que l'on se fait de l'homme, de la société, du rôle de l'État et puis de la manière dont on veut placer l'homme au sein de cette société. Donc selon les courants politiques, intellectuels, philosophiques, la notion même d'impôt juste va varier. Et la difficulté, et c'est d'ailleurs un des éléments au cœur de la révolte fiscale, c'est qu'il ne peut pas y avoir de véritable entente autour de l'impôt. C'est pas un sujet qui peut faire un consensus, parce que chacun va avoir sa vision de l'utilité, de la justice, de ce qu'il faut taxer ou de ce qu'il ne faut pas taxer. Et donc l'impôt s'accompagne toujours d'une coercition, qu'elle soit plus ou moins forte, mais en tout cas, il ne peut pas y avoir de consensus et d'entente sur cette notion d'impôt juste.
Ce qu'il y a d'impressionnant, et ce que vous venez de dire d'ailleurs à propos de votre livre, c'est-à-dire les liens entre l'économie, la politique, la société, qui sont extrêmement étroits, et on le voit à travers ces révoltes qui jalonnent votre livre, ces révoltes sont des modernisations, parfois même des révolutions.
Oui, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire économique, c'est que c'est pas l'histoire des courbes ou des taux de la macroéconomie, mais par l'économie, on comprend véritablement une société. On comprend, on voit les évolutions humaines, on voit comment les gens se nourrissent, comment un État se construit. Et les révoltes fiscales, enfin les grandes révoltes fiscales, on en a recensé plusieurs. Je ne prétends pas à l'exhaustivité, il y en a qu'on aurait pu mettre mais qu'on n'a pas mis faute de place, mais les révoltes fiscales correspondent toujours à une évolution de l'État, de la société. Alors, à l'époque de l'Ancien Régime, ce sont des rapports entre la noblesse et le roi. Pour faire simple, la noblesse prélève des impôts à son armée et le roi essaye de limiter ce pouvoir de la noblesse, essaye de s'accaparer le prélèvement de l'impôt, de s'accaparer le monopole de l'armée, ce qui conduit de manière régulière à des révoltes. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que l'impôt va être utilisé pour comme hocher, pour attirer des territoires ou bien pour les punir. Quand le roi de France conquiert la Guyenne, eh bien, il fait des exemptions fiscales, notamment pour la ville de Bordeaux, après la guerre de Cent Ans, pour la Franche-Comté, par exemple, hein, d'où le nom. Ou au contraire, quand on veut punir une ville, parce qu'elle s'est soulevée contre le roi, eh bien, on rétablit des impôts, on en crée de nouveaux. Donc, on voit que là aussi, l'impôt a toujours une fonction politique.
Ce qu'on apprend aussi dans votre ouvrage, c'est que... il n'y a pas un impôt de gauche, il n'y a pas un impôt de droite, j'allais dire comme le dit le dicton, l'argent n'a pas d'odeur, l'antifiscalisme est autant à droite qu'à gauche.
Oui, alors, il faudrait d'ailleurs définir ce que sont la droite et la gauche, mais dans l'acception moderne.
On va dire dans l'acception moderne
voilà,
du 19e, 20e siècle.
Telle qu'elle est perçue aujourd'hui. On voit qu'il y a aussi l'idée, notamment chez un courant socialiste ou un peu plus anarchiste, d'une méfiance vis-à-vis de l'impôt, parce que celui-ci est lié à l'État, Et donc, on a un courant de gauche, notamment par Proudhon, qui rejette l'État, la présence étatique. Et puis, c'est vu aussi comme une mainmise, là aussi, de l'État sur les personnes. Alors que, par exemple, l'impôt sur le revenu, qui a été mis en place en 1914, il est mis en place par un gouvernement qui est plutôt de droite, centre-droite, enfin Joseph Caillaux et Raymond Poincaré. Et ensuite, il a été accepté par l'ensemble des gouvernements. D'ailleurs, c'est intéressant dans l'histoire de France de voir que, très souvent, alors, il y a une constante, et que quand un impôt est mis en place, il est toujours à taux bas et à assiette restreinte. Et puis, évidemment, alors, il est souvent appelé de manière provisoire, et puis en fait, il va durer et son taux va augmenter. Et on voit que quand un impôt est mis en place, notamment à l'époque contemporaine, il y a de fortes résistances à son installation, mais après, il est tout à fait accepté. C'est le cas de l'impôt sur le revenu, par exemple.
Oui.
Quand on relit les textes de l'époque, dans les journaux, il y a de très très fortes oppositions à l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, aucun parti politique ne demande sa suppression.
Oui.
C'est pareil pour la CSG. Quand Michel Rocard met en place la CRG en 1990, la droite, notamment menée par Édouard Balladur, demande à ce que, enfin, fait voter une motion de censure qui manque de peu de réussir. Mais lorsque Édouard Balladur revient au pouvoir, la CSG n'est pas abrogée. Donc l'impôt a été accepté.
Alors, on va remonter dans le temps, on va s'éloigner de cette Ve République, et il y a une évidence que vous donnez, mais c'est pas si évident que cela, au fond, c'est que les sources de l'impôt remontent, dites-vous, vers le sacrifice humain, et on sait que la Bible est liée à la mention systématique de ce qui est dû à Dieu.
Oui, alors moi je suis très influencé par un auteur qui s'appelle René Girard, que j'estime être l'un des principaux intellectuels du XXe siècle et un de ceux qui a le mieux compris le fonctionnement des sociétés humaines. Et donc j'ai tendance à lire l'histoire à travers son œuvre et René Girard s'est beaucoup intéressé à la notion de sacrifice humain, et notamment à la place du sacrifice humain dans l'histoire. Et c'est quelque chose que l'on retrouve partout. En tout cas, la notion de sacrifice, qu'elle soit humain ou animal, on la retrouve dans toutes les civilisations et dans tous les textes. Et donc l'impôt a effectivement un aspect religieux parce que c'est l'idée que l'on construit une société à travers l'impôt. Chez les Hébreux, par exemple, vous avez des remises de dettes à période décennale qui se font dans le cadre d'un processus religieux, le grand pardon, exactement. Et puis également le fait que l'on donne dans l'impôt, souvent, on va donner soit des animaux, donc des nouveaux, enfin les nouveau-nés, qui sont après apportés en sacrifice, ou bien les premières moissons, ce qu'on appelle les prémices. Donc il y a l'idée aussi d'une offrande soit, enfin, à la divinité. Ça a été ensuite, le concept a été davantage laïcisé ou étatisé, et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui. Il y a quand même l'idée que, à travers l'impôt, eh bien, les personnes, les citoyens, font don d'une partie d'eux-mêmes à une autorité supérieure qui est l'État, en vue du bien de la communauté. C'est se dépouiller d'une partie de soi-même, retrancher d'une partie de soi-même, pour un bien plus grand qu'est le bien de la communauté. Et donc, on a, malgré tout, même dans nos sociétés hyper contemporaines et davantage matérialistes, on a conservé ce rapport assez sacrificiel ou de don à travers l'impôt.
L'impôt peut mener à la guerre, et ceci dès les origines. Vous évoquiez la Ligue de Délos tout à l'heure. L'affaire nous a mené, au fond, à la guerre du Péloponnèse.
Oui, en fait, la question posée par l'impôt, c'est celle du consentement à l'impôt. C'est-à-dire jusqu'à quand les personnes ou les cités acceptent de payer l'impôt. Et généralement, on accepte de payer l'impôt si on voit les bénéfices qu'on en tire. Donc, on fait un rapide calcul, gain, coût, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que j'ai en rapport. Et donc, avec la Ligue de Délos, eh bien, les cités ont compris qu'il s'agissait donc de donner pour le tribut afin de se protéger des Perses. Donc là, le rapport gain, dépense-gain est assez évident. Jusqu'au moment où les Grecs se rendent compte que le tribut de Délos est détourné pour financer l'Acropole. Donc l'Acropole, telle qu'on la connaît aujourd'hui, le Parthénon, a été financé par le tribut de Délos. D'ailleurs, avec un argument de Périclès, enfin c'est Thucydide qui le cite, mais Thucydide est fiable, donc on peut penser que ça vient vraiment de Périclès, que je trouve absolument génial, en disant, de toute façon, on vous protège suffisamment, donc maintenant le trop-plein, c'est normal qu'on se serve pour la gloire d'Athènes. Et donc là, il y a un problème qui est posé, c'est celle de l'affectation des ressources, qu'on retrouve d'ailleurs à toutes les époques. C'est-à-dire que on a payé pour avoir une armée pour se protéger des Perses, mais ça sert à faire la l'Acropole et le Parthénon. Le problème se posera avec Louis XIV et même à l'époque contemporaine. Et donc là, il y a le refus du consentement. Et donc les cités de la Ligue de l'Os ne veulent plus payer. Et à partir de là, Athènes bien a deux possibilités. Soit elle accepte ce refus du consentement et donc elle permet de quitter la Ligue de Délos, soit elle refuse. Et donc pour faire accepter l'impôt, ce n'est plus un libre consentement, mais c'est une imposition forcée par la guerre. Et donc c'est une des causes, c'est pas la seule, mais c'est une des causes de la guerre du Péloponnèse.
Une des causes aussi de la chute de l'Empire romain. Nous avons fait deux émissions sur la chute de l'Empire romain avec les deux avis divergents. Mais je ne sais plus combien de causes on peut trouver sur la chute de l'Empire romain. Mais dans toutes ces causes, dans toutes ces multiples causes, il y a également la question de l'imposition. Et vous montrez bien que l'arrivée de tribus barbares et la substitution du pouvoir a amené des populations, au fond, à se soumettre parce que les barbares n'imposaient pas les populations comme l'Empire romain le faisait.
Oui, c'est un cas effectivement qui, je pense, a unanimement accepté par les historiens de constater que les populations, enfin les tribus barbares imposant moins, eh bien pour certaines cités, pour certains peuples, il vaut mieux être dirigé par des barbares qui sont en plus largement romanisés plutôt que par l'Empire romain lui-même, enfin l'Empire romain d'Occident. Et ce qui a beaucoup joué notamment, c'est la perte de l'Afrique du Nord, enfin l'Afrique, parce que ces greniers à blé de l'Empire d'Occident, et à partir du moment où les Vandales prennent Carthage et prennent l'Afrique, l'Empire d'Occident est privé de cette source très importante de revenus, et donc il doit accroître la pression fiscale. Et là, il y a un engrenage qui est que on a besoin de plus d'impôts, enfin l'Empire a besoin de plus d'impôts pour financer son armée, pour se protéger des populations barbares, mais plus d'impôts, ça veut dire moins de consentement à l'impôt, et donc finalement des citoyens qui préfèrent faire venir les barbares pour chasser les Romains. Ce qui amène aussi la question de la, enfin du rapport au pouvoir, enfin de la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire que, et là c'est intéressant aussi dans le consentement au pouvoir. Le pouvoir est lié à la capacité à prélever l'impôt, et donc on va accepter un pouvoir en fonction aussi de sa légitimité à prélever l'impôt.
Les rois fainéants, ils ne peuvent rien faire, ils font néant, ils ne font rien parce qu'ils n'ont pas les ressources des impôts.
Oui, puis l'impôt sert à financer une armée. Et donc, si vous financez pas d'armée, eh bien, vous pouvez pas assurer la sécurité des chemins, ni vous protéger d'une attaque extérieure.
Nous passons au XIVe siècle, à la fin du XIVe siècle, nous sommes sous le règne de Charles VI, les révoltes fiscales sont nombreuses. Est-ce qu'on peut parler des premières révoltes? Je vais le mettre entre guillemets, je le mets toujours entre guillemets quand on parle d'histoire médiévale, au micro de Storia Voce, de nationale, entre guillemets, c'est une première révolte nationale parce que elle apparaît à Rouen, elle apparaît à Paris, elle apparaît en Auvergne.
Alors, c'est une révolte qui se fait dans le royaume de France. À ceci dit quand même que le royaume de France est à l'époque davantage décentralisé. Il y a encore les grands féodaux au début du XIVe siècle. En tout cas, ce qui est intéressant d'abord, c'est que Charles VI est très jeune, il a 14 ans. C'est quand même un point, enfin, il est roi à 12 ans et il révolte à 14 ans, même si je veux bien croire qu'à l'époque on était plus mûrs qu'aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même très jeune. Ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on est dans la guerre de 100 ans, donc il a besoin de finances pour alimenter l'armée, pour se lutter contre les Anglais. Et on voit des révoltes qui apparaissent dans les régions les plus riches. D'abord la Normandie. Donc c'est évidemment le roi va prélever d'impôts là où il y a le plus d'argent, c'est normal. Oui. Mais au bout d'un moment, les Normands, eh bien, se révoltent contre cette imposition trop forte. Et la ville qui fait la révolte, c'est Rouen, qui est la capitale économique et marchande de la Normandie. Donc c'est une révolte, mais surtout une sécession par rapport au pouvoir royal. La volonté de gagner en indépendance par rapport à ce pouvoir. Et ensuite, c'est Paris qui se révolte. Donc l'Île-de-France.
Avec les Maillotins.
Avec les Maillotins. Alors ça, c'est délicieux parce que quand on étudie la permanence de l'histoire, les Maillotins sont donc les Parisiens qui attaquent l'arsenal, qui récupèrent des maillets. Des maillets qui sont utilisés pour la guerre, hein, c'est pour les soldats de pied, donc des maillets en fonte ou pour combattre. Et avec ces maillets, donc ce sont les villages extérieurs de Paris qui se sont révoltés, notamment Montmartre ou Clichy. Et donc ils se retrouvent à l'orée du bois de Boulogne sur une place qui est avant l'entrée dans Paris. Ils se retrouvent là pour cette révolte. Et du coup, la place où ils se sont retrouvés, enfin où les Maillotins se sont retrouvés, a pris le nom de Porte Maillot. C'est l'origine. Et ce qui est amusant, c'est que, enfin amusant dans le sens de la continuité de l'histoire, c'est que lors de la première manifestation des Gilets jaunes, la réunion avait lieu porte-maillot. Et après, ils ont été sur les Champs-Élysées, mais la première réunion était porte-maillot. Donc, il y avait ce clin d'œil. Évidemment, c'était pas du tout fait exprès, mais ce clin d'œil à plusieurs siècles de distance d'une réunion des révoltés fiscaux sur la même place.
Je vous cite. Ces révoltes échouent faute de réel soutien populaire et encore moins d'assentiment de la noblesse. Là encore, une permanence de l'histoire.
Oui, parce qu'en fait, il faut distinguer deux types de révoltes. Vous avez la révolte qui est, on va dire, une émotion populaire, donc qui émane de la base, de la paysannerie, et une révolte qui est menée par la noblesse. La révolte des Normands en 1382, c'est une révolte qui émane de la bourgeoisie de Rouen, qui, bon, on est dans le contexte du XIVe siècle, le développement des villes, donc ces villes veulent avoir davantage de pouvoir politique, et elles veulent s'émanciper. Et en fait, la révolte échoue au moment où l'émotion populaire devient extrêmement violente, avec des destructions de bâtiments, avec des morts. Et donc là, la bourgeoisie s'en désolidarise, parce qu'ils veulent bien se révolter contre le roi pour moins d'impôts, mais ils ne veulent pas non plus l'anarchie. Et à partir de là, la réconciliation est possible entre la noblesse et le roi, et donc la révolte est matée. On a toujours ces deux distinctions entre révolte émotion populaire ou révolte nobiliaire, plus que révolte fiscale, révolte nobiliaire à caractère fiscal, ou à usage fiscal.
En quoi Richelieu opère une révolution?
Alors, Richelieu est intéressant parce que, d'abord, il a gouverné main dans la main avec Louis XIII, à une époque là aussi très difficile, et Richelieu se doit à la fois de mater des oppositions intérieures, notamment à La Rochelle ou dans le Languedoc, et puis des oppositions extérieures avec la double pince des Habsbourg en train d'en serrer la France. Et Richelieu a écrit cet ouvrage, je trouve fabuleux, qui est son testament politique, qui a été réédité chez, alors je sais plus si c'est Perrin ou Fayard, donc l'un ou l'autre, mais en tout cas, il a été réédité
chez Perrin.
Chez Perrin, voilà.
Avec une présentation d'Arnaud Tessier.
Exactement. Et donc, c'est un texte très intéressant à lire. Et notamment, il y a un passage où il parle de l'impôt. Et il en parle comme on pourrait en parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il explique très bien que plus on prélève d'impôts, plus ça décourage le travail et l'initiative. Et donc, il faut trouver le bon ratio entre prélever pour financer l'État, mais pas trop, pour continuer à ce que l'État puisse fonctionner correctement. Et Richelieu est dans un combat nobiliaire. C'est celui qui a détruit un très grand nombre de châteaux. Il fait raser les tours, il fait raser les murailles. Et donc, il a compris qu'il fallait retirer l'impôt à la noblesse pour le concentrer dans les mains du pouvoir royal, afin de concentrer le pouvoir dans les mains du roi et de centraliser l'État. Et donc Richelieu a été, pas dire le premier, parce que d'autres évidemment l'avaient pensé aussi, mais celui qui a vu qu'il y avait un véritable usage politique de l'impôt et qu'il fallait retirer l'impôt aux nobles pour asseoir le pouvoir du roi.
Et il y a une continuité, bien évidemment, avec Mazarin.
Oui, de toute façon, les deux hommes, enfin Mazarin est le fils spirituel de Richelieu, donc il lui a très bien appris. Alors là aussi, c'est intéressant de voir que tous ces dirigeants sont d'accord pour dire qu'il faut moins d'impôts. Malgré tout, il y a une forme de malédiction, si on pourrait dire, l'impôt n'est jamais prélevé, enfin est toujours trop prélevé.
Oui.
Donc il y a à la fois la claire compréhension qu'il faut moins d'impôts et d'un côté l'impossibilité à diminuer la pression fiscale. Richelieu a cette formule, je cite de tête, mais où il dit la France serait beaucoup plus riche s'il y avait moins d'impôts. Ce qui en plus après a été démontré par les économistes au XXe siècle, notamment ce qu'on appelle la courbe de Laffer, Arthur Laffer. Mais en tout cas cette impossibilité malgré tout à baisser l'impôt parce que les guerres sont très nombreuses et donc pour affronter les Habsbourg de Vienne ou de Madrid ou pour lutter contre les principautés italiennes, il faut une armée. Et donc si on a une armée, il faut un impôt.
La Fronde est en partie une révolte fiscale?
Oui, complètement. Enfin, on est toujours à la frontière entre révolte fiscale et révolte politique. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que Louis XIV est très jeune, comme Charles VI. Enfin, oui. Il est encore plus jeune, il a 4 ans. Et donc, on profite de la faiblesse du roi. Évidemment, c'est plus facile de faire une révolte au moment de la faiblesse du roi. Ce qui est intéressant avec la Fronde, c'est qu'on a une révolte fiscale qui a avorté. Alors que un siècle après, la Révolution française, c'est une révolte fiscale qui a réussi. La Révolution française de 1789 aurait très bien pu avoir lieu au moment de la Fronde. D'ailleurs, au même moment, on a la même chose en Angleterre et ça a réussi. Avec la Fronde, on a Mazarin, on a Marie de Médicis, deux Italiens d'ailleurs, qui sauvent le roi de France contre la noblesse. Et en fait, c'est un peu le contre-coup de la centralisation de Richelieu, de Louis XIII et de Mazarin. C'est-à-dire que la noblesse s'est soulevée contre cette centralisation, contre le fait qu'on lui avait retiré ce pouvoir économique et militaire. Et donc, ils ont voulu chasser le roi. D'ailleurs, ça aurait pu, s'ils ont été pas très loin de réussir, mais Mazarin avait pour lui justement la confiance de l'armée et puis le pouvoir économique qui lui a permis en partie de mater la Fronde.
Est-ce qu'on peut dire que sous la monarchie, en tous les cas sous l'État moderne, il y a cette double polarisation, ces deux opposés que sont d'une part la centralisation et d'autre part le particularisme, et le particularisme le plus représentatif au fond, c'est celui des Bretons avec la révolte des Bonnets Rouges.
Oui, parce que l'impôt varie beaucoup en fonction des régions, des villes. Donc il y a différents types d'impôts et vous avez différents types d'impositions. Aujourd'hui, l'impôt est le même partout, enfin, sauf en Corse. La Corse, par exemple, a une TVA différente que la, je veux dire que la métropole, mais que le continent.
Il ne fallait pas le dire, Jean-Baptiste Noé, il ne fallait pas le dire.
Comme beaucoup de produits sont taxés en France continentale à 20%, pour la TVA, que c'est 8 à 5% en Corse. Donc, c'est une subsistance de l'ancien régime. Jusqu'à la Révolution française, il y a de grandes variétés fiscales selon les régions, notamment selon le moment où les territoires ont été intégrés à la couronne. Et donc, lorsque le roi va essayer d'uniformiser, de rationaliser l'impôt, ça fait des soulèvements qui sont des soulèvements de particularisme. Vous avez cité la révolte des Bonnets Rouges chez les Bretons. Là aussi, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'on a les Bonnets Rouges, et puis ensuite, ça a été la même chose contre l'écotaxe. Ils avaient repris de manière symbolique ce Bonnet Rouge. C'est une révolte qui part de l'accroissement du... Enfin, il y a plusieurs raisons, mais notamment principalement l'augmentation du timbre fiscal, qui sert en fait pour de très nombreux actes notariés. Et donc, ça pénalise assez... Enfin, les populations, puisqu'elles vont devoir payer un impôt supplémentaire, mais c'est aussi vu comme une mainmise de Paris, enfin de l'État central, sur le particularisme régional. Donc c'est une révolte, une volonté de maintenir un particularisme régional qui prend pour prétexte, la question fiscale.
Ce qui a d'étonnant, c'est de voir là aussi cette permanence. Vous montrez lors de cette révolte des Bonnets Rouges qu'il y a des rumeurs, et il y a notamment la rumeur de la gabelle, de l'arrivée de la gabelle en Bretagne, qui en était exemptée. Ce n'est qu'une rumeur. Louis XIV n'a jamais songé à instaurer cette gabelle en Bretagne, et pourtant elle persiste, elle participe à envenimer les choses.
Oui, on parle beaucoup de rumeurs aujourd'hui et de fausses nouvelles, et on l'a déjà à l'époque. Effectivement, cette rumeur se diffuse, alors que Louis XIV n'a jamais eu l'intention d'accroître la gabelle, mais c'est très difficile de lutter contre une rumeur. La différence entre cette époque et aujourd'hui, c'est que c'est la question des temps de communication. Ils sont très longs. Donc c'est entre le moment où une révolte se met en route et le moment où le pouvoir du roi est informé, il y a un décalage de plusieurs jours. Aujourd'hui, l'information va beaucoup plus vite. Mais malgré tout, la rumeur est omniprésente. Pareil d'ailleurs pour la Révolution française. Pareil aussi pour la révolte de la Harelle à Rouen en 1382. Il y a une rumeur qui court sur l'accroissement disproportionné de l'impôt par rapport à la réalité. Charles VI n'a pas les moyens de la combattre.
Il y a un terme fiscal qui est celui de flat tax, qui est un terme qui a été inventé en 1985 par deux économistes de l'université américaine de Stanford, Robert Hall et Alvin Rabushka. Et les auditeurs seront très heureux de savoir qu'en fait, ce terme de flat tax, qui désigne au fond un même et unique taux de taxation en pourcentage, eh bien, n'est pas du tout une invention de ces deux personnages, mais une invention bien française.
Oui, on a essayé dans l'ouvrage de mettre en valeur les penseurs de l'économie française, Et parce qu'il y a une très riche école économique depuis le XVIIe siècle. L'économie n'est pas née en Angleterre. Ce penseur, alors qu'on n'attend pas du tout sur les questions économiques, qui est Vauban. Vauban, on le connaît pour ses forts Vauban, on le connaît pour son ingénierie. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans le royaume de France, donc qui a vu la condition de vie des populations, souvent difficile, et qui a réfléchi à ce que pourrait être un impôt juste. Et donc, il a fait un traité fiscal qu'on appelle projet de dîme royale, qui a été publié après sa mort. Donc, il écrit à Louis XIV pour lui proposer un type d'impôt en visant à éliminer les impôts existants, qui sont souvent multiples et compliqués, et de faire un seul impôt, qu'il appelle la dîme royale, qui serait un impôt proportionnel. C'est-à-dire, ça serait, par exemple, de prélever 15% des revenus. Alors, le projet n'a pas abouti. Et c'est une invention française, vous l'avez dit, et aujourd'hui est appliquée dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Russie et dans les pays baltes. En fait, ils l'ont appliqué en 1991 après la chute de l'Union soviétique, il y avait un peu tout à refaire. Et donc, ils ont repris ce concept, alors qu'on appelle maintenant flat tax, donc impôt à taux unique, qui est de taxer, alors ça va entre 10 et 20%, généralement c'est 15% des revenus, quels que soient les revenus.
Vous abordez dans votre livre évidemment l'histoire de France, même si nous avons parlé de la Grèce, on a parlé de l'Empire romain, et puis dans un chapitre, vous penchez sur le cas anglais. Nous sommes dans les mêmes ressorts intellectuels, politiques.
Complètement. La révolution anglaise contre Charles IX, c'est une révolte fiscale. Et puis, il y a le cas le plus connu, qui est la guerre d'indépendance américaine, qui est aussi une révolte fiscale. Ça commence par la Boston Tea Party. Donc, là aussi, le roi d'Angleterre a besoin d'argent pour financer la guerre. Donc, il va prélever de l'argent sur les colonies, les 13 colonies américaines. Le taux d'imposition est très faible, hein, c'est 1 à 2%. Et notamment, il taxe le thé. Et donc, c'est ce moment où les Américains déguisés en Indiens prennent les ballots de thé et les jettent dans le port de Boston. Ce qui est intéressant, c'est l'argument qu'il y a derrière, en disant on refuse de payer l'impôt parce qu'on n'est pas représenté au Parlement. Pour le dire autrement, on veut bien payer l'impôt si on est représenté au Parlement. Donc, l'imposition doit aller de pair avec une représentation politique. Et là, on voit le lien entre économie et politique. Et comme le roi refuse cette représentation parlementaire, les Anglais des territoires américains se révoltent. Ça donne donc la guerre d'indépendance américaine, aidée d'ailleurs par la France, qui a profité pour prendre sa revanche sur la guerre de 7 ans, et c'est à l'origine de l'indépendance, puis du fondement des États-Unis d'Amérique.
La Révolution française, les origines, on va dire les dernières années, les années 70, les années 80, la question fiscale domine complètement la politique française et constitue des origines proches de la Révolution française.
Oui, là aussi, c'est comme Rome, il y a beaucoup d'analyses des causes de la Révolution française. Étant un grand lecteur de Tocqueville, je trouve que l'analyse qu'il en fait est tout à fait juste, enfin lui et d'autres. Moi, je la perçois d'abord comme une révolte fiscale. Louis XVI tente une réforme fiscale, et Louis XVI, avec notamment Turgot, cherche d'abord à faire payer ceux qui ne payent pas d'impôts, à savoir la noblesse. Enfin, ils en payent, mais sous des éléments un peu différents. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que la noblesse était exemptée d'impôts financiers parce qu'elle payait ce qu'on appelait l'impôt du sang. Avec un argument tout à fait logique en disant l'impôt sert à financer l'armée. Donc la noblesse combat, hein, c'est sa fonction. Donc elle finance déjà l'armée par sa personne. Donc elle ne va pas financer une deuxième fois l'armée par l'argent. Et donc le tiers-état, qui lui ne participe pas directement à la guerre par sa personne, va participer à la guerre par l'impôt. Ce qui est finalement assez logique et juste dans le raisonnement. Sauf qu'au XVIIIe siècle, la noblesse ne combat, enfin, on n'est plus à l'époque d'Azincourt et de la bataille de Poitiers, de la féodalité. Donc, il s'agit de faire payer la noblesse. Notamment, Turgot cherche à abroger les droits de féodalité et la corvée. Et il y a une opposition du Parlement de Paris à l'abrogation de la corvée avec un argument, enfin, qu'on retrouve aujourd'hui complètement délirant en disant la corvée participe à l'équilibre de la société et donc si on supprime la corvée, la noblesse sera privée de sa fonction même d'être le gardien de l'ordre de la société. Donc on a exactement comme à l'époque de la Fronde ou comme à l'époque de Charles VI, un bras de fer entre le pouvoir royal et le pouvoir nobiliaire, enfin la puissance de la noblesse. Oui. Sauf que Louis XVI, pour plusieurs raisons, n'arrive pas à mettre en place cette réforme fiscale. Necker trouve un moyen de contourner le problème, c'est de financer les dépenses par la dette. Vous avez deux manières de financer une dépense, soit par l'impôt, soit par la dette. Donc Necker contente le Parlement et la noblesse, puisque du coup la noblesse ne paye pas d'impôt. Sauf que la dette, c'est un impôt différé, puisque vous faudrez bien payer à un moment donné, donc vous faites payer par d'autres. Et la dette a été payée par les assignats, par ensuite les réformes économiques mises en place par la Révolution française. Et Louis XVI convoque les États généraux, c'est certes sous la pression du Parlement, mais c'est aussi pour régler cette question fiscale. Et ce qui est intéressant, c'est que la noblesse qui a freiné les quatre fers pour les réformes fiscales de Louis XVI, d'un coup, à l'été 89, adopte tout, dans une sorte de grand mouvement un peu délirant d'ailleurs, hein, avec notamment l'abolition des privilèges, qui en fait n'ont pas été complètement abolis, puisqu'ils ont été rétablis quelques temps plus tard. Mais enfin, en tout cas, toutes les oppositions qu'il y avait depuis une quinzaine d'années ont été acceptées en l'espace de 15 jours.
La déclaration des droits de l'homme, hein, et du citoyen, nous sommes le 26 août, présente une vision très très apaisée de l'impôt, très traditionnelle au fond de l'impôt, par rapport à notre conception aujourd'hui de l'impôt comportemental que vous présentiez, par exemple, tout à l'heure.
Oui, il y a deux manières d'analyser la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Soit on peut la voir comme un début, le début d'une nouvelle période, début des temps nouveaux, soit comme l'aboutissement de toute la réflexion politique et fiscale du XVIIe et XVIIIe siècle.
Il y a une continuité, hein. Là, c'est le Tocquevillien qui parle.
Oui, mais exactement. En tout cas, sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la vision de l'impôt est tout à fait celle, vous l'avez dit, du XVIIe, XVIIIe siècle, donc un impôt minimal, avec l'idée que l'impôt ne sert qu'au financement des besoins de l'État, à savoir l'armée et la police. Or, aujourd'hui, dans une autre lecture qui va être faite de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on va en faire une lecture sous un angle davantage égalitariste, et donc, au nom de cette déclaration, justifier des impôts comportementaux ou des impôts beaucoup plus importants. C'est intéressant d'ailleurs de voir aussi l'interprétation juridique ou historique qu'on peut faire d'un texte. Avec des visions différentes, on peut interpréter un texte de manière différente.
Alors on va faire un bond dans le temps, la Troisième République. Je voudrais terminer cette émission avec cet éclairage. Je ne me souviens plus exactement de la bonne citation de Clémenceau. La France est un pays formidable où se multiplient les impôts, il y pousse des fonctionnaires.
Oui, la France est un pays où on y plante des fonctionnaires. Plan des fonctionnaires, il y pousse des impôts.
La Troisième République joue un rôle majeur dans la conception des impôts, puisque c'est Caillaux qui développe pour la première fois dans l'histoire de France cet impôt que l'on connaît encore de nos jours, qui est l'impôt sur le revenu.
Exactement, alors c'est un taux très faible, 3%, bon là aussi il a cessé de croître, et cet impôt est adopté en 1914 sur une tractation entre Joseph Caillaux et Raymond Poincaré, en disant ok pour l'impôt sur le revenu, mais en échange vous votez l'accroissement du service militaire, on passe de 2 à 3 ans. Sauf que le service militaire a disparu, l'impôt sur le revenu n'a pas disparu. Donc en fait, c'est une mesure qui à l'origine est purement électoraliste ou vraiment de circonstance. On n'imagine pas que cet impôt négocié dans les travées du Palais Bourbon sur un coin de table entre différents courants politiques aura un rôle symbolique et économique aussi important un siècle plus tard. Ce qui est important également, c'est le rôle des guerres. La guerre, on le sait bien, est un accélérateur de l'histoire, mais notamment la première et la deuxième guerre mondiale ont modifié les rapports entre l'État et la société, parce qu'il a fallu reconstruire, parce que la guerre c'est une période de planification, une période où l'État est légitime et justifié pour prendre en main l'activité économique. Et là aussi, il y a des structures qui sont mises en place qui durent, notamment après la deuxième guerre mondiale. Et puis peut-être pour terminer aussi, enfin un auteur que j'aime beaucoup et qu'on cite dans l'ouvrage, c'est Jacques Rueff, parce que il est un peu oublié, mais c'est un homme qui a, alors c'est un, là aussi un homme assez brillant, qui a sauvé l'économie française à trois reprises. D'abord avec Raymond Poincaré, il était à 26 ans un collaborateur de Raymond Poincaré. Ensuite, il était collaborateur de Paul Reynaud en 1938-39. Et ensuite, c'est à lui qu'on doit le plan Armand Rueff, mais c'est surtout lui qui l'a fait, les réformes fiscales du général de Gaulle en 1958. Et on a là une tradition assez traditionnelle, ancienne de l'impôt, d'un impôt minimal, d'un impôt qui sert à financer l'État et non pas un impôt comportemental. Cette vision a beaucoup influencé les hommes politiques de l'époque, Poincaré, Reynaud, De Gaulle. Elle a été un peu oubliée maintenant aussi. C'est une tradition qui est un peu effacée.
Il y a une fatalité aujourd'hui dans notre rapport à l'impôt.
Je dirais qu'il y a une ambiguïté, parce que si on interroge tout un chacun, les gens veulent moins d'impôts. Il y a aucun doute dessus. Mais dans le même temps, ils veulent que l'État intervienne davantage. Or, l'intervention de l'État est financée par l'impôt. Et généralement, on veut moins d'impôts pour soi, mais plus d'impôts pour les autres. On veut faire payer les autres. Alors les autres, ça peut être l'entreprise, le riche, le voisin, mais enfin, on veut faire porter le poids fiscal sur les autres. Donc il y a cette ambiguïté qui est difficile à trancher, parce que l'impôt relève davantage des questions symboliques, sentimentales, qu'une question purement rationnelle et financière.
Eh bien, c'est sur ce symbolisme que nous allons nous quitter, Jean-Baptiste Noé. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Au micro de Storia Voce, la révolte fiscale, l'impôt, histoire, théorie et avatar chez Kalman Lévy. Donc un livre de Jean-Baptiste Noé et de Victor Fouquet. Et nous nous retrouverons dans quelques semaines, Jean-Baptiste Noé, pour que vous évoquiez ce moment si particulier de la monarchie de juillet, ce que vous appelez la parenthèse libérale, 18 années qui ont changé la France. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.